Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement congolais indique avoir monitoré plus de 17 000 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique en une année dans les zones sous occupation rebelle. Ceci est contenu dans un rapport publié samedi 21 février à Kinshasa. Ces violations comprennent 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 cas d'enlèvement et 417 cas de torture et autres traitements inhumains, a précisé le ministre des Droits humains Samuel Bemba. Il a également souligné que ces violences ont entraîné environ 7 400 000 déplacés internes et externes, tout en visant les propriétés privées des populations. Quelle analyse faire des conclusions du rapport du gouvernement congolais sur les violations des droits humains en une année dans les zones sous occupation rebelle? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons en ligne Gilbert Ifwanga Walufu. Il est avocat, il est directeur des cabinets de la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Il est également conseiller juridique de cette institution. Bonsoir, maître Gilbert Ifwanga Walufu.
Bonsoir,
Lestegui. Également en ligne, Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir, maître Jean-Claude Katende. Bonsoir, maître Jean-Claude Katende. Apparemment, il n'est pas encore là. Et ici au studio, nous recevons Johnson Noichara. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Il œuvre en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. Bonsoir, Johnson Noichara.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir aux compagnons de débat et bonsoir à tous les compatriotes qui nous captent.
Et bienvenue une fois de plus à vous tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, au moins 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique recensés dans la partie sous occupation rebelle en l'espace d'une année, selon un rapport du gouvernement central publié samedi 21 février à Kinshasa. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a précisé que 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 cas d'enlèvement et 417 cas de torture et autres traitements inhumains dans cette partie du pays. La première ministre a salué cette initiative qui soutient la démarche ou les démarches diplomatiques et judiciaires du gouvernement congolais. Les détails avec Benjamin Mudumbi.
Ces documents présentés à la chef du gouvernement énumèrent preuve à l'appui des atrocités inhumaines perpétrées à Goma par l'M23 AFSI, supplétif du Rwanda. 10 jours durant, les experts ont recoupé et analysé les informations concernant les atrocités commises sur des paisibles citoyens, notamment les violences faites aux femmes, destruction d'infrastructures sociales et déplacements internes massifs. Au moins 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique ont été renseignés, dont 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 cas d'enlèvement et 417 cas de torture et autres traitements inhumains. Ces violences sont à l'origine des déplacements forcés. À ce jour, l'on compte environ 7,4 millions de déplacés internes et externes, précise ce rapport. Pour sa part, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, a souligné que les violations documentées, assassinats arbitraires, actes de torture, forces communes, pillage, destruction de biens publics, privés, écoles, traduisent des vies brisées et une atteinte profonde à la dignité du peuple congolais. De son côté, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a présenté les recommandations formulées par les experts en intention de l'exécutif central et de la communauté internationale. Il propose au gouvernement, entre autres, de mener un plaidoyer aux Nations Unies pour la création d'un tribunal pénal international pour les crimes commis en RDC, veiller à ce que les auteurs et complices des violations des droits humains ne soient pas intégrés dans les institutions de la République sans avoir préalablement rendu compte de leurs actes devant la justice, poursuivre les efforts de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité pour la protection de l'intégrité et de l'indépendance de la RDC, renforcer les juridictions militaires et civiles en augmentant le nombre des magistrats et en renforçant leurs capacités par des formations sur les droits internationaux humanitaires et accélérer la mise en place effective des mécanismes de justice transitionnelle. Dans son allocution, la chef du gouvernement a déclaré que les rapports présentés sur les violations à Goma et à Bukavu est crédible, solide et prêt à être porté devant la communauté internationale. Loin d'être un énième rapport, il s'agit d'un document stratégique pour dire non à l'impunité.
Merci à vous, Benjamin Mudumbi. Gilbert Ifuanga Walufu, vous êtes avocat et directeur des cabinets de la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Vous êtes également conseiller juridique de cette institution. Et qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ces rapports?
La motivation de l'élaboration de ces rapports, il faut savoir que l'occupation de ces villes a semé la désolation humaine et matérielle. Et pour rendre justice aux victimes, il fallait que le gouvernement puisse identifier d'abord les violations et puis identifier les auteurs de ces violations. Donc je pense que ce qui a motivé la rédaction de ces rapports, c'est le fait que le gouvernement a voulu assurer la justice pour les victimes et lutter contre l'impunité des crimes graves et des violations des droits de l'homme qui ont été commis.
Voilà.
Et effectivement, c'est pour aussi conserver des preuves fiables.
Alors, comment avez-vous procédé pour la collecte des informations qui vous ont permis d'élaborer ces rapports quand on sait que les zones où ces violations sont censées avoir été, n'est-ce pas, commises, c'est des zones où le gouvernement central n'a pas accès? Comment vous avez procédé?
Premièrement, il y a eu un cadre de collecte des données qui avait été mis en place. Le cadre de collecte des données était composé de représentants des ministères et des institutions publiques dont la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que les représentants de la société civile qui ont amené des rapports publiés sur l'occupation de villes de Goma et Bukavu. Nous avons aussi recouru à certains rapports publiés par certains organismes internationaux. Nous avons collecté les données. Et on s'est aussi servi de certains témoignages de victimes, parce qu'il faudrait le dire que dans la commission qui avait élaboré le rapport, il y avait aussi la plupart des victimes de cette agression, de cette occupation de ville de Bukavu et de Goma.
Alors, quelle crédibilité vous accordez à certaines données que vous avez pu obtenir à distance, vous qui n'étiez pas sur le terrain?
Bien évidemment, la plupart des rapports que nous avons utilisés, ce sont des gens qui ont été sur le terrain. C'est-à-dire, il y avait des conseillers des droits de l'homme qui nous ont envoyé des données. Et pendant qu'on était aussi en train d'élaborer ces rapports, il y avait des données qui nous ont été données, envoyées à l'ESBIRO par les défenseurs des droits de l'homme qui ont été sur le terrain. Et on s'est aussi recouru, comme je viens de vous le dire, de certains rapports des organismes internationaux qui nous ont aussi servi de soubassement pour que nous puissions parvenir à la rédaction de ces rapports.
Voilà. Êtes-vous conscient que ces rapports, même si vous l'avez élaboré avec la collaboration de certaines ONG, organismes internationaux, mais est-ce que vous êtes conscient que c'est un rapport qui sera contesté par l'autre partie, c'est-à-dire la partie AFCM-23?
Oui, il en va de soi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions faire fi de violations des droits de l'homme et qu'on ne puisse pas répertorier les signes commis dans le cadre d'une occupation parce que l'occupant va contester le résultat? Moi, je pense qu'on ne peut, qu'on conteste ou pas le rapport qu'on vient de publier. Le rapport est crédible et contient des données vérifiées et vérifiables.
Merci. Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Comment vous réagissez à ces rapports du gouvernement sur les violations des droits humains en une année dans les zones sous occupation rebelle?
Allô?
Allô, Jean-Claude Katende. Bonsoir. On n'a pas eu le temps de se parler au début là.
Oui, bonsoir, Monsieur Guimaté. Comme nous l'avions déjà dit quand le rapport a été rendu public, nous l'avons salué. Nous pensons que c'est un instrument très important pour l'établissement des faits, mais aussi pour l'administration de la justice, un jour ou un autre. Parce que nous avons cette conviction que ceux qui se sont rendus coupables de violations des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo rendront des comptes un jour ou un autre. parce que les crimes qu'ils ont commis sont des crimes qui sont imprescriptibles. Donc, à tout moment, on peut se servir de ce rapport pour pouvoir identifier les auteurs, mais aussi produire des preuves qu'il y a eu effectivement des exactions qui ont été commises par ceux qui sont à l'est du pays, qui contrôlent l'est du pays, à un moment de la vie de notre pays.
Voilà. Et pour vous, quelle pourrait être la crédibilité d'un tel rapport quand on sait qu'il émane du gouvernement central qui est aussi parti au conflit?
Bon, je pense qu'il est du devoir du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a le mandat de gouverner le pays, d'établir le rapport sur la situation des droits de l'homme à l'Est. Aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que ce rapport est fiable et crédible jusqu'à ce que quelqu'un d'autre produise des preuves contraires. Mais ce qui est vrai, c'est que les cas qui ont été identifiés me semblent être en dessous de la situation réelle parce qu'il y a eu effectivement des exactions à grande échelle. Mais aussi, il faut retenir que d'autres rapports, notamment les rapports des Nations Unies, identifient d'autres cas de violation des droits de l'homme. Et donc, tant qu'il n'y a pas un rapport contraire qui prouve que celui que le gouvernement vient de rendre public a des failles, ce rapport reste crédible et fiable. Et vous devez savoir que l'intention du gouvernement étant celle de permettre à ce que la justice soit dite un jour, que les preuves soient conservées et rassurer la lutte contre l'impunité, et surtout pour des hommes et des femmes qui ont pris des armes contre leur pays, qui ont tué leurs concitoyens. Et je pense que ce rapport est un rapport très important à tout point de vue. Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits du fait que, à l'Est, c'est vrai, il y a des violations de droits humains, mais il y a aussi des violations à l'Ouest ou dans la partie du pays contrôlée par le gouvernement. Et nous serions contents de voir que le ministère des droits humains établit un autre rapport sur la situation telle qu'elle se passe à l'ouest ou, sur la partie contrôlée par le gouvernement, dans la mesure où nous estimons qu'il y a des arrestations arbitraires, il y a des détentions qui ne répondent pas aux règles légales. Je pense que le ministère des droits humains a cette obligation d'établir un rapport sur l'ensemble du pays.
Et justement, vous pensez que le gouvernement pourrait accepter, n'est-ce pas, de mener des enquêtes qui, au finish, pourraient l'embarrasser?
Je pense que si on a le souci de lutter contre l'impunité, c'est clair que le gouvernement doit assurer, assurer que un tel rapport soit publié. Aujourd'hui, nous sommes tous d'avis que toutes les personnes qui, à un moment donné, de la vie de cette nation, ont pris les armes, ont tué les Congolais, quelle que soit la période, puissent répondre de leurs actes devant la justice. Ce que nous demandons contre les troupes rwandaises, contre les troupes de l'AFC M23, nous les demandons aussi pour d'autres personnes qui sont au gouvernement mais qui ont été mises en cause à cause des violations des droits de l'homme survenues, soit sous l'administration de l'AFDL, soit dans les autres guerres, notamment la guerre de Kisangani, et toutes les exactions qui sont documentées par les rapports MAPIC.
Voilà.
Donc, si on veut la justice, elle doit être la même pour tout le monde.
Au-delà du fait que vous n'êtes pas satisfait, parce que vous venez de le dire, parce que vous auriez souhaité que le gouvernement puisse mener la même démarche dans la partie que lui-même contrôle, mais au-delà de tout cela, quels pourraient être les mérites du rapport que le gouvernement vient de publier?
D'abord, je dis que nous sommes satisfaits du rapport qui est publié. Donc, sur cette question, je suis clair. On est satisfait que le gouvernement ait établi et publié ce rapport sur la situation à l'est du pays. Mais en même temps, en tant que militants de droits de l'homme, nous devons voir la situation de droits de l'homme dans le pays de manière globale. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme vis-à-vis de ses engagements au niveau de la Constitution, mais aussi au niveau des normes internationales. C'est d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du pays. Et donc, nous ne pensons pas que c'est le gouvernement qui permet à certains individus, à certains animateurs de certaines institutions, de pouvoir violer les droits des citoyens. Mais le gouvernement a l'obligation de s'assurer que toutes les institutions, tous les acteurs publics travaillent dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer la situation de droits de l'homme. Et donc, le mérite du rapport actuel, c'est un mérite pour moi qui est très élevé. Il ne faudra pas que ceux qui se rendent coupables des violations de droits de l'homme à l'Est pensent que le dialogue va pouvoir les absoudre, va pouvoir les rendre innocents. J'ai rappelé que les crimes qu'ils commettent sont des crimes imprescriptibles. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils seront poursuivis, même si des résolutions sont prises au niveau du dialogue, de pouvoir, en fait, ne pas les poursuivre. Le dialogue n'est pas au-dessus, ou ne sera pas au-dessus de la Constitution. Donc, la Constitution, à un moment donné, si on a des juges audacieux, des magistrats audacieux, toutes ces personnes, même si un jour elles sont dans les institutions, elles peuvent être poursuivies. Merci. Et donc, le rapport a un grand mérite, et je pense que maintenant, la tâche du gouvernement, comme on l'a dit, mais aussi des organisations de droits de l'homme, c'est de vulgariser ce rapport pour que d'abord les citoyens congolais comprennent qu'on ne peut pas commettre ce genre d'actes contre ses propres concitoyens et qu'on les oublie. Les documenter, ça fait partie aussi de la mémoire, mais en même temps aussi assurer la promotion de ce rapport au niveau international pour que si la justice congolaise n'est pas dans la situation d'agir, mais que la justice internationale agisse pour que au moins ces personnes soient sanctionnées.
Merci, Johnson Ishara. Vous êtes acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Vous œuvrez en faveur d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. Que pensez-vous de ces rapports produits par le gouvernement sur les violations des droits humains dans la partie occupée par le M23?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je tiens d'abord à saluer aussi mes co-débatteurs, Monsieur Gilbert Ifuanga et Maître Katende. Alors, par rapport à cette question, je pense, comme l'a si bien dit, mes prédécesseurs l'ont si bien dit, je pense que d'abord c'est un grand effort que le gouvernement arrive à faire le monitoring autour des violations des droits humains dans les zones, c'est vrai, sous occupation, mais j'aurais bien voulu que ce soit des cas du point de vue général, c'est-à-dire des zones sous occupation avant, pendant ces atrocités. Alors, ce qu'il faut quand même dire, que moi j'ai resté sur ma soif, Monsieur Guy, j'ai resté sur ma soif parce que ces rapports devraient également faire allusion à à une marge d'erreur qu'après avoir exploité les rapports, on n'a pas mis, on n'a pas créé le paragraphe pour expliquer la marge d'erreur du point de vue statistique, parce que moi j'estime que les cas sont vraiment très légers dans cette zone-là. On peut partir déjà de toutes les atrocités. Pendant 4 jours d'affrontement à Goma, il y a eu des cas graves, très graves, des violations, des violences sexuelles contre nos jeunes demoiselles, nos mamans dans cette ville, et ça a été. J'espère que la commission a contacté des sources aussi fiables, parce que là, ça poserait également des questions sur l'authenticité des données récits sur terrain. Il y a eu également des exécutions sommaires sur place. Il y a eu des assassinats ciblés, parce que c'était vraiment horrible ce qui s'est passé. Également, il faut rappeler qu'il y a des entités qui ont connu quand même des pertes en vies humaines incroyables, par exemple comme Kichanga, où on a enregistré des jeunes qui ont été abattus à bout portant, en plein jour, et qui ont été enterrés de la manière la plus inhumaine. Nous également à Sake, avec toute cette résistance de cette jeunesse, à Minova, quand vous prenez maintenant le couloir qui va vers le site Kivu, à Minova, il y a eu des cas d'assassinat, d'exécution, à Calais Centre, vous y arrivez, à Moudaka également, autour de l'aéroport de Kavumu. Il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués parce qu'on les confondait ou on les comparait. On les faisait passer comme des résistants qui ont été tués, et les bilans étaient de plus en plus très lourds. Très, très lourds. Alors,
et donc, c'est en dessous de la situation comme la situation sur le terrain, comme on l'a dit Maître Jean-Claude Katédé.
Bien entendu. Je salue jusqu'à ce niveau les efforts. Donc, les travails d'abord, l'intention elle est bonne, l'initiative elle est bonne. Et moi, je me dis que je reste encore sur ma soif. Je préfère que ce travail puisse continuer parce que tous les éléments ne sont pas encore là. Mais au moins, comme ils ont des preuves pour le 15 000 sites Sarka, c'est déjà bien. Je pense qu'on va continuer et j'espère que si la commission continue à approfondir, on va avoir beaucoup, beaucoup de rapports, parce que notre organisation a documenté également sur cette situation, et en comparant tous les événements depuis 1998 jusqu'à nos jours, je pense que l'événement du 1-23 pour cette période a été la plus cruelle, surtout contre le vice humain. Alors, je pense également, j'ai rejoint ce que Jean-Claude était en train de dire. Je pense, oui, je veux bien que dans cette situation, le gouvernement fait partie également des acteurs majeurs, mais j'aurais bien voulu que ces rapports fassent une exception scientifique. L'exception scientifique ici, c'est-à-dire, c'est vrai, on est du gouvernement. Il y a ceux qui occupent nos zones, mais également il faut reconnaître dans ce même rapport que si ces gens occupaient nos zones, c'est parce qu'il y a eu un pouvoir qui a été affaibli, qui n'a pas si protégé ses compatriotes. Et en arrivant également, il faut dire que dans cet embarras-là, il y a également des cas de violence perpétrés par les alliés aux FRDC, et parfois les FRDC ou nos services de sécurité. Ça peut être minime, mais moi, en tant que défenseur de droits humains, j'aurais bien voulu qu'il y ait aussi un paragraphe. C'est vrai qu'on va dire qu'on ne peut pas tout mettre à l'air, mais j'aurais bien voulu que ces rapports soient objectifs. Mais en se fiant seulement sur ces éléments, ça donne l'impression d'une approche scientifique que ça a été maintenant un rapport subjectif. Parce que sur son passage, vous vous rappellerez qu'avant la chute de l'aéroport de Kavumu, il y a eu beaucoup de cas qui ont été documentés sur ça. Des cas de violence contre les civils perpétrés par nos forces loyalistes. Et que nous encourageons les travaux qu'ils sont en train de faire sur l'axe Rutshuru, sur l'axe Masisi. Mais j'aurais bien voulu, encore une fois, comme je l'ai dit, que ces rapports puissent s'évêtir de son caractère objectif, où on arrive à étaler les cas des envahisseurs. On arrive également à dire que voilà, parce que M. Guy, il faut rappeler que quand même, dans la mise en œuvre de cette justice dont nous réclamons tous les jours, il y a eu des militaires qui ont comparu au niveau de Bukavu, avant que même Bukavu ne soit sous contrôle, par rapport aux exactions commises sur Kavumu. Il y a eu aussi d'autres militaires qui ont comparu au niveau de Beni, par rapport aux exactions commises à Kanyabayonga sur l'axe Rutshuru, et même tout ce qui s'est passé aux environs de Masisi. Donc j'aurais bien voulu vous lis quand même, qui est également un chapitre ou un paragraphe qui parle de ça, mais je sais que la grande partie des violences, des violations des droits humains, c'était vraiment perpétré par les occupants aujourd'hui de cette zone. Et aujourd'hui, on est loin de croire que on va y mettre fin. Et moi, j'aurais bien voulu. C'est vrai que le ministère des droits humains s'est bat pour mettre ces rapports en place, mais j'aurais bien voulu également que le même ministère s'est batte pour éviter à ce que ces cas de violences continuent. Parce que si on ne fait rien, c'est qu'on va aller de pire en pire, et ce sont des Congolais qui continuent à payer le prix sur place.
Voilà, on a connu d'autres rapports de ce genre, mais qui, pour des raisons dites de réconciliation nationale, ont été classés dans des tiroirs et on n'en parle plus. Vous ne pensez pas que ces rapports du gouvernement pourraient aussi connaître ces mêmes sorts?
Non, je crois également que le même ministère, j'en parle ici sous le contrôle de Gilbert Ifuanga, le ministère des droits humains travaille aujourd'hui sur l'applicabilité de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle implique quoi? C'est vrai, on peut bon dire qu'au nom de la cohésion nationale, mais la cohésion nationale ne veut pas légitimer les criminels. La cohésion nationale ne veut pas dire que le bourreau sont maintenant à applaudir et que le victime reste dans l'air tombeau. Non, la cohésion nationale, à travers la justice transitionnelle, verse que oui, il doit y avoir réparation. Ce qui était vraiment impliqué en fond dans la violation des droits humains, dans les exécutions sommaires des Congolais, eh bien, qui répondent de leurs actes. Et il y a des cas qui doivent être traités à part. Et j'aurais bien voulu que ce soit, du côté des envahisseurs, que ce soit du côté du Congolais, eh bien, le Congolais lambda, ces citoyens-là, ces cultivateurs, cet éleveur-là, qui ne connaît rien de la politique, qui ne connaît rien de conflits armés, qui ne comprend pas pourquoi ces champs sont envahis, mais qu'on arrive à les tuer et l'enterrer vivant, ou soit on le tue, on tue le membre de sa famille et d'autres, vous avez suivi des témoignages, des compatriotes, ou même on est en train de violer une maman côté de ses enfants, tout simplement pour réduire la dignité de ces personnes. Eh bien, la justice transitionnelle, c'est également ça. Donc, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été classés, comme cela est toujours dit, mais moi je pense que cet épisode que le pays est en train de traverser devrait nous permettre de quitter d'abord ces caps d'hypocrisie, ces caps également de vouloir blanchir ceux qui ont sali la réputation du pays. On compte de morts, on continue à en compter, mais s'il faut qu'on arrête également cette hémorragie, il faut commencer par frapper. Et frapper, ça veut dire punir à travers la justice, que les gens répondent, et que grâce à ces sanctions, je pense que les autres pourront un peu se retenir et qu'ils pensent autrement par rapport à toutes les exactions commises sur le terrain.
Johnson Ishara, nous allons à Bukavu, Sud Kivu, où un auditeur est en train de nous appeler, hein, il veut réagir, et vous allez, n'est-ce pas, réagir à sa réflexion. Il s'appelle Emina Mwanda.
Je suis Emina Mwanda Asani Kangolingoli. Je vous appelle à partir de Bukavu dans le Sud Kivu. La révélation des ministres des droits humains n'est qu'une suite de l'escalade des groupes armés à l'est de la RDC. Et ce cas pourrait être triplé ou même quintuplé si rien n'est fait. Ma question est de savoir que fait le gouvernement congolais pour mettre fin à ces violations graves des droits humains, ciblant particulièrement les enfants et les femmes à l'est de la RDC.
Voilà, vous avez déjà relevé cette préoccupation. Allez-y.
Oui, cette préoccupation reste pendante, c'est que les cas sont vraiment très graves. Je pense que, comme mon compatriote Emina Mwanda l'a dit, c'est vraiment très très grave sur le terrain en termes de bilan. Alors, que fait le gouvernement? Je dois me permettre de dire ici que je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je pense que tout ce qu'on peut faire, insinuer ici, ce ne sont que des propositions. Je pense que le gouvernement devrait d'abord mettre fin à cette guerre. Cette guerre à travers tout le voie légale mise à sa disposition par la Constitution. Et c'est en mettant fin à cette guerre qu'on va maintenant étudier d'autres approches, parce que aussi longtemps que nous avons nos zones qui sont contrôlées, il y a deux choses qui se passent dans cette zone, il y a deux choses qui se passent dans le noir, et il y a toujours nos compatriotes dont on perdra toujours des traces, parce qu'à un moment on a été floué. Mais je pense que Ici, je pense qu'il y a un travail qui doit continuer à se faire avec tous les acteurs de la société civile dans le village, dans les localités, dans les groupements. Il est très important. C'est vrai qu'on peut être sous occupation, mais j'encourage mes compatriotes qui sont dans ces zones de continuer à documenter. Au besoin, nous partager ces éléments. Nous allons garder ces archives. Et les moments à venir, ce sont les mêmes éléments-là, avec des preuves à l'appui que nous allons utiliser contre les gens qui ont décidé de tirer profit derrière les sangs de Congolais, parce que nous en avons marre. 30 ans après, on doit avoir une génération qui doit prendre le courage pour dire ça, on doit arrêter ça et ça doit prendre fin à travers le courage de tout le Congolais.
Merci. Maître Gilbert Ifwanga Walufu, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni au Nord Kivu.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Je trouve cynique que le gouvernement présente ces chiffres uniquement comme une réalité des zones occupées, comme si les violations des droits humains ne concernaient pas les zones sous son contrôle. Il y a lieu de se poser des questions. Qu'en est-il des arrestations arbitraires à Kinshasa? Qu'en est-il des détentions prolongées sans procès enregistré jusque-là? Qu'en est-il des cas de mauvais traitements dénoncés dans certains cachons? Je pense que si nous parlons des droits humains, nous devons en parler de manière globale, parce que les droits humains ne sont pas sélectifs, ne s'appliquent pas seulement aux zones rebelles. Ils doivent s'appliquer aussi aux zones sous contrôle des institutions de la République. Donc, je pense que le gouvernement doit avoir le courage de publier également un rapport sur la situation des libertés publiques dans les zones qu'il administre. Parce que nous estimons que ce rapport doit être un point de départ pour une évaluation nationale sérieuse de la gouvernance sécuritaire et non pas un simple outil de communication. La protection des civils n'est pas un slogan, c'est la première obligation d'ailleurs d'un État.
Oui, Maître Gilbert Ifwanga Walufu, c'est une préoccupation, n'est-ce pas, qui est partagée aussi par les intervenants dans cette émission, Maître Jean-Claude Katende et Johnson Ishara.
Oui, je disais, je ne saurais pas parler au nom du gouvernement, mais comme expert à la CNDH et en pris part à la rédaction de ce rapport, le rapport est publié, nous avons fait des recommandations pour que le rapport soit premièrement vulgarisé et que les recommandations relatives à la justice transitionnelle soient appliquées. Moi, je pense que c'est lorsqu'on va appliquer les recommandations que les victimes auront bénéficié à la justice et ils seront réparés.
Voilà, quelques recommandations que vous avez formulées à l'endroit du gouvernement. Pas toutes, hein. Prenez les plus pertinentes.
Premièrement, à ce qui concerne, par exemple, la justice transitionnelle, nous avons recommandé la mise en place telle que le président de la République l'avait préconisé du tribunal pénal international pour les Congos, justement pour réprimer le crime, comme on venait de le dire, imprescriptible, mais aussi qu'on ne puisse pas amnistier ceux qui sont en train de commettre les exactions à l'intérieur de la République démocratique du Congo.
Et l'autre recommandation?
Je ne saurais détailler toutes les recommandations. Je pense que le rapport sera publié et que la population ou les citoyens auront connaissance de toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de ce rapport.
Parce que vous avez, n'est-ce pas, contribué à la production de ce rapport. Est-ce que vous envisagez aussi, n'est-ce pas, la vulgarisation de ces rapports, parce que ça a été aussi une préoccupation qui a été soulevée ici?
Bien évidemment. Je viens de vous le dire que c'est parmi les recommandations. Et je vous dis que le cadre qui a rédigé le rapport est permanent et nous sommes en train de suivre la mise en œuvre des recommandations et la sensibilisation de ces rapports. Donc, on ne ferme pas les yeux après avoir publié le rapport. Nous sommes en train de suivre pour que ces rapports soient vulgarisés et que les recommandations soient appliquées.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi dans les Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Face aux plus de 17 000 violations des droits humains documentées dans les zones sous occupation rebelle, la gravité de la situation ne peut être minimisée. Ces chiffres traduisent l'ampleur du drame humain et confirment l'existence d'une crise sécuritaire majeure. La publication de ces rapports démontre une volonté d'alerter l'opinion nationale et internationale. Il s'agit aussi de renforcer le plaidoyer auprès des partenaires comme les Nations Unies États-Unis et l'Union africaine. Cependant, documenter le crime ne suffit pas sans réponse stratégique concrète sur le terrain. La protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État doivent être une priorité absolue. Quelles mesures fortes seront prises pour sécuriser durablement ces territoires? Et comment garantir que les auteurs de ces violations répondent réellement de leurs actes devant la justice?
Maître Jean-Claude Katende.
Oui, merci, Monsieur Guy. Je pense que l'intervenant a apporté des questions essentielles. Mais quand on parle de 15 000 atteintes à la vie, il faut dire que c'est le cas des personnes qui ont été tuées. 15 000 personnes tuées, c'est en deçà de la réalité, mais c'est quand même un chiffre qui est effrayant. Et donc, on a le besoin de voir les auteurs de crimes être
punis. Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude.
Il est important.
Maître Jean-Claude.
Qu'on se dise.
Maître Jean-Claude, oui. Est-il possible de bouger un peu parce que vous commencez à sortir entrecoupé?
Vous m'entendez?
Là, maintenant, ça va. Allez-y.
Oui, je disais que quand on parle de 15 000 atteintes à la vie, ça veut dire que c'est 15 000 personnes qui ont été tuées. C'est vrai que c'est ça de la situation réelle qu'on connaîtra plus tard. Mais c'est déjà quand même effrayant que des Congolais alliés aux troupes étrangères se permettent de tuer leurs propres compatriotes dans cette proportion-là. Ça appelle à ce que la justice soit vite, qu'elle soit la justice traditionnelle ou la justice traditionnelle. Pour nous, il est clair que la justice doit être dite, parce que ce qui se passe à l'est du Congo ne pourra pas être définitivement arrêté sans une justice qui agisse, qu'elle soit nationale ou internationale. Mais en même temps aussi, il est clair qu'il faut évaluer la situation pour voir quelles sont les failles qu'il y a eu pour qu'on en a là et prendre des mesures pour que cette situation ne se répète plus jamais. C'est vrai que même si le gouvernement a eu quelques faiblesses dans la protection des citoyens, cela ne permet pas aux troupes rwandaises de prendre cet alibi pour venir des connivences avec les troupes du M23 AFC pour venir tuer des Congolais, pour s'emparer des territoires et s'emparer des ressources naturelles. Il est important qu'aujourd'hui, que cette histoire, cette aventure qui a commencé il y a plus de 30 ans puisse arrêter. Il y a la volonté du gouvernement qui est d'arrêter cette aventure, mais je pense que la mobilisation des organisations de la société civile, de la communauté internationale et des institutions nationales reste vraiment un besoin qu'il faut absolument couvrir. Et c'est une bonne chose que le gouvernement ait associé les organisations de la société civile à l'établissement de ce rapport qui est pour nous très important. Et je conclue en disant que l'essentiel, ce n'est pas de publier le rapport, même si c'est un pas positif, mais c'est de pouvoir lui donner des effets, que les recommandations qui sont faites soient mises en œuvre et que l'évaluation à un moment donné en soit faite. En ce moment-là, les sérieux dont le gouvernement fait montre en établissant ce rapport va être maintenu et soutenu pour arriver en fait, au changement. Et le changement, c'est que les droits de l'homme soient respectés non seulement à l'est du Congo, mais aussi sur les territoires qui sont contrôlés par le gouvernement. Ça doit être un besoin qui ne se manifeste pas seulement pour l'est, mais pour l'ensemble du pays. Il est important que la République démocratique du Congo devienne un état de droit. Parce que ce qui se passe à l'est comme dans les territoires gouverné par les institutions nationales est une question d'inquiétude pour les militants de droits de l'homme, mais aussi pour les citoyens de manière générale.
Maître Katende, Maître Katende, j'ai posé la même question à Johnson Ishara. On a connu ce genre de rapports dans ces pays, hein, mais pour des raisons politiques, des raisons dites, n'est-ce pas, des réconciliations nationales, ces rapports ont été classés dans les tiroirs, on n'en parlait plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous en tant que défenseur des droits humains? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser, recommander au gouvernement pour que ces rapports ne puissent pas connaître les sorts que les rapports précédents avaient connus?
La comparaison n'est pas toujours raison, M. Kimate. Je pense qu'il y a un élément qu'on n'arrive pas à percevoir, et notamment la volonté du président Tshisekedi de voir que les responsables n'étaient pas de ces exactions, je voulais dire, soient traduits en justice. Et c'est pour ça qu'il a même dit que ces individus auteurs de ces violations n'ont pas la place au dialogue national. Et quand vous prenez les autres rapports sous les régimes où ils étaient établis, cette volonté n'existe pas. Et j'espère bien que pour le président Tshisekedi, cette volonté n'est pas seulement une volonté verbale. Elle doit pouvoir se traduire en acte concret qui démontre que vraiment le gouvernement, le président de la République veulent que les choses changent et que les sanctions soient prises. Et cette volonté doit se manifester, comme je l'ai déjà dit, sur l'ensemble du pays. Il ne faut pas qu'on ait des coins de la République démocratique du Congo où les citoyens subissent des violations des droits de l'homme de la part des agents publics, des agents privés, ou des troupes étrangères, ou des rébellions, sans que le gouvernement puisse prendre la question de meilleures conséquences.
Merci. Merci. Gilbert et Ifuanga Waloufou, nous tendons vers la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Après cette publication, selon vous, que devrait faire les gouvernements dans le sens, n'est-ce pas, de voir ces rapports produire les résultats escomptés à l'interne et aussi sur le plan international?
Je dirais premièrement appliquer les recommandations et puis voir la mise en place, telle que je viens de le dire, l'application de la justice transactionnelle.
Et votre mot de la fin?
Merci pour nous avoir reçu dans le cadre de cette émission. Je pense que la population congolaise doit s'approprier de ces rapports. Il faudrait qu'on lise ces rapports et qu'on voit aussi les recommandations que nous avons faites dans ces rapports. Et au gouvernement, je pense que dans le rapport, il y a plusieurs recommandations que nous avons faites et que l'on suit de près ces recommandations, qu'on applique ces recommandations. C'est que nous sommes en train de dire, c'est que l'on puisse mettre la justice et que les victimes de violations des droits de l'homme puissent bénéficier de la justice. Parce que si la nature n'a pas lu la déclaration universelle des droits de l'homme, les auteurs des atrocités à l'est de la RDC l'ont lu, ils en connaissent même la teneur. Donc ils ne sont pas ignorants, ils sont conscients des exactions, des horreurs qu'ils ont commises et ils doivent répondre de ces actes.
Maître Gilbert Ifanga Waloufou, il y a toujours cette crainte, n'est-ce pas, de voir ces rapports devenir lettres mortes comme les rapports précédents?
Non, parce que le cadre, je viens de vous le dire, est permanent. Nous sommes en train de suivre l'application des recommandations. Dans ce cadre-là, ce n'est pas qu'on a fait le rapport et puis on est parti. Non, nous sommes en train de suivre. Il y a des réunions que nous organisons pour suivre de près comment est-ce que le rapport ou les recommandations sont appliquées.
Merci, Johnson Ishara. Vous allez aussi conclure. Hein. Qu'attend la société civile du Nord Kivu en particulier, mais aussi la société civile à travers tous les pays, après la publication de ces rapports?
Après la publication des rapports,
Alors, il faut dire que les rapports restent des rapports, mais moi, je ne m'inscris pas dans la logique de Maître Gilbert qui pense que le peuple congolais devrait s'approprier les rapports, des chiffres, où on va dire que autant de personnes sont mortes. Non, je pense que plutôt le Congolais devrait tout faire pour s'approprier un climat d'apaisement, de tranquillité, de paix. Il devrait également s'approprier leurs énergies pour se battre, bien entendu, pour leur liberté et pour la justice. On n'a pas besoin, chaque fois qu'on s'est réveillé, on doit compter le nombre de morts. Et c'est ce qui fait ce qu'aujourd'hui, vous allez voir que même dans ces rapports, on n'a même pas annexé les exactions qui se passent dans les grands nord, par exemple, avec tout ce qu'il y a comme les ADF qui continuent à tuer comme s'ils se promenaient dans un champ de maïs. Et ce sont des Congolais. Donc j'aurais bien voulu plutôt qu'on se dise, voilà, les envahisseurs sont en train de faire autant, mais sur l'aperçu général de la zone Est, voilà ce qui se passe. Quelle est la cartographie de ces violences? Quelles sont les raisons? Comment on va y mettre fin? Quels sont les acteurs impliqués? Et comment nous pensons identifier ces acteurs? Non, moi, c'est le travail qu'on attend. On ne veut pas un travail qui semble avoir... c'est vrai, ça a été fait pour des raisons d'immortaliser toute la vérité sur la zone, mais il ne faudrait pas que ça soit ça paraisse comme un instrument politique utilisé. Non, j'aurais bien voulu que ça reste un rapport objectivement fouillé, travaillé par des gens qui ont une âme consciente et un esprit calme pour le faire, et ce qui veut dire que ça impliquerait, mais non, qu'on ne laisse rien à côté. Alors, la deuxième chose, c'est que moi, j'aurais bien voulu, je souhaite que le travail qui doit être mené, c'est de pousser de part et d'autre, d'abord le gouvernement, parce que voilà, nous n'avons rien à voir avec ceux qui n'ont pas notre mandat. Tant que Congolais, nous avons donné notre mandat au gouvernement à travers le président de la République. On doit tout faire dans un peu de temps, dans un bref délai, que toutes ces zones-là, où les exactions continuent à se perpétrer, que ces zones soient libérées, Monsieur Guy. Il n'y a pas longtemps qu'une famille de Massissi, dont une maman a perdu 3 de ses enfants, et sa maison a été bombardée, et ne sait même plus où aller, et l'a mise au monde 3 bébés, et n'a même pas de couverture, et ne sait pas comment ses enfants vont dormir parce qu'il n'a plus de toit. Voilà, toutes ces gens, toutes ces personnes qui sont dans ces mêmes situations voulaient trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, on a besoin que ces zones soient libérées. Après la libération, eh bien, il faut passer maintenant à l'application de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, personne ne doit être écarté. Vous avez été du gouvernement, vous n'avez pas été du gouvernement, vous avez joué un rôle direct ou indirect. Il faut répondre devant la justice. Et troisièmement, je vais m'adresser ici à tous mes compatriotes, eh bien, l'histoire d'aujourd'hui était la sociologie d'hier. La sociologie d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Je demande à tout le Congolais, dans votre calme, dans votre silence, là où vous êtes, parce que vous semblez être pris en otage, eh bien, continuez à documenter. Ceux qui font du mal, notez, écrivez. Ces éléments vont servir la nation tôt ou tard. Et ce sont des choses comme ça que nous devons continuer à demander à nos compatriotes. Et l'ennemi sache que ils peuvent être en conflit avec X, Y, mais ces Congolais qui sont en train de tuer n'ont rien à voir avec toutes les revendications qui sont en train de monter gauche-droite. Je pense que le Congolais mériterait la dignité, le respect, l'honneur. Et si vous voulez bien trouver gain de cause dans chaque démarche, il faut d'abord respecter l'être humain, et c'est ce qu'on ne voit pas dans ces zones-là. Et pour les restes, je pense que la vraie dignité part aussi par le respect du soi et le respect des autres. Pour le ministère des droits humains, je pense que nous attendons aussi le deuxième rapport. Le deuxième rapport, comme l'a dit Jean-Claude Katende, bien dans les zones, maintenant sous contrôle. Quelle est la situation des prisons aujourd'hui? Nous attendons les rapports par rapport aux exactions du 30 août 2023 à Goma. Nous attendons également toute cette documentation pour qu'enfin la justice puisse s'appuyer sur ça, et ça va rendre justice à toutes ces personnes qui ont perdu les leurs ou qui continuent à vivre dans l'atrocité aujourd'hui à cause de l'irresponsabilité de certaines personnes.
Maître Jacques-Claude Katende, votre mot de la fin.
Mon mot de la fin va se situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'effort de documentation doit continuer. Et à ce sujet, j'appelle le ministère des droits humains de faire les choses de manière concrète et d'identifier dans les zones, il y a toujours des moyens pour le faire, dans les zones qui sont occupées, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes qui continuent à faire leur travail au risque de leur vie, comment les soutenir, comment les encadrer pour qu'ils continuent à faire leur travail. Il n'y a pas de documentation des cas de violation de droits de l'homme sans défenseurs de droits de l'homme. Deuxième chose, il y a beaucoup de défenseurs de droits de l'homme de l'Est qui sont ici, qui sont venus de Goma, qui sont venus de Bukavu, du Kivu, du Nord, qui sont ici, qui ont fui ces zones-là compte tenu de leur engagement. Notre demande est que le gouvernement les encadre, les prenne en
compte
de manière constante et sérieuse.
Merci, Maître Jean-Claude Katende.
Je pense que ce sont des aspects qui permettront de voir comment que l'engagement du gouvernement sur des questions du droit de l'homme touche aussi la protection des défenseurs de droits humains.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Maître Gilbert Ifuanga Waloufou, Maître Jean-Claude Katende, Monsieur Johnson Ishara. Merci également à Benjamin Mudumbi qui l'a réalisé, et André Mongou qui était à la technique, et à Dieudonné Nyangasa qui a assuré les lives de cette émission. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, à la présentation d'I Maté. Merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capi.
Bye.